Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Nous revoilà pour une interview hebdomadaire. On va parler aujourd'hui des communautés paroissiales. On en parle assez souvent puisque, on le sait, depuis le 1er septembre, notre diocèse est réorganisé en 10 paroisses. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de me parler avec vous de l'importance et du sens que ça a d'être attaché ou pas à une communauté paroissiale. Au fond, à quoi ça sert de se dire ma communauté paroissiale, ma paroisse, c'est tel endroit ?
L'Église, dans sa définition la plus essentielle, on va dire, la plus profonde, c'est la communauté de ceux qui sont convoqués, c'est-à-dire de ceux qui répondent à l'appel du Seigneur à sortir de chez eux et à se rendre dans un lieu où ils vont retrouver d'autres personnes qui ont fait la même chose, qui répondent à l'appel du Seigneur, à se rendre dans ce même lieu pour constituer non pas un agglomérat d'individus, mais une communauté. L'Église, c'est la communauté. Et c'est cette communauté qui est le corps du Christ, dont saint Paul dit que certains sont le bras, d'autres la main, d'autres le cœur, les yeux, les oreilles, etc. Et qu'il faut tous ses membres pour constituer le corps du Christ. Voilà. Et donc, c'est répondre à l'appel du Seigneur à constituer visiblement, sensiblement, l'Église qui est le corps du Christ, c'est-à-dire qui rend le Christ agissant et visible dans le temps de l'histoire des hommes. Et donc, c'est répondre à une mission, répondre à l'appel de Dieu en vue d'une mission, le rendre physiquement présent. Et d'ailleurs, le Concile Vatican II, dans son enseignement dogmatique, indique qu'il y a plusieurs modes de présence réelle du Christ. Il y en a 5. Parmi les 5, il y a la présence réelle du Christ dans l'hostie et le vin consacré dans le cadre de l'Eucharistie. Mais pour qu'il y ait une Eucharistie, il faut qu'il y ait une communauté rassemblée et un prêtre qui célèbre l'Eucharistie. Et ça rend le Christ présent réellement dans les saintes espèces. Mais il y a, parmi les 5 modes de présence réelle du Christ, aussi la présence réelle du Christ dans la communauté, s'appuyant sur la parole de Dieu, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc c'est répondre à l'appel du Seigneur, à sortir de chez soi pour aller retrouver d'autres non choisis. Ceux que l'on retrouve, c'est ceux qui, comme moi, sont sortis de chez eux pour répondre à l'appel du Seigneur. Parmi eux, il y a des gens que j'aime bien, il y a des gens que j'aime pas. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui le sont moins. Il y a des gens doués, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens de toutes sortes qui ont en commun d'être réunis parce que répondant à l'appel du Seigneur, à le faire, et ce faisant, ils donnent consistance au corps du Christ qui, à travers eux, et même parfois à leur insu, parle au monde, se donne à voir au monde, et c'est le Concile encore qui dit que l'Église, rassemblée, l'Église est sacrement du Christ, c'est-à-dire signe et instrument du Christ, c'est-à-dire rend le Christ visible et lui permet d'agir pour le bien de tous, c'est-à-dire de continuer de sauver le monde. Et donc une communauté paroissiale, eh bien c'est à l'échelle d'un territoire donné, celui d'une paroisse, cette communauté de fidèles du Christ qui rend le Christ réellement présent en ce lieu pour le bénéfice de ses membres, mais aussi pour le service des autres. Et bien souvent, on a des difficultés avec ça parce qu'on a une approche trop individualiste ou essentiellement individualiste. Je vais à la messe parce que ça me fait du bien, je vais dans tel groupe parce que je m'y sens bien, je vais retrouver telle personne parce que je les aime bien, mais ce faisant, on part toujours de soi. Alors que l'Église, c'est partir du Christ qui la convoque et répondre à cet appel en vue d'une mission. Et c'est cette conscience-là que nous devons faire grandir et que l'Église vit dans sa réalité historique à travers des communautés paroissiales au plus près de là où les gens sont et au plus près du terrain. Et voilà.
Alors, en vous entendant, j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête, mais je voudrais que vous réexpliquiez ou que vous expliquiez, parce que quand vous avez présenté la réorganisation du diocèse en 10 paroisses, vous avez distingué les paroisses et les communautés chrétiennes en disant il y a 10 paroisses, mais il peut y avoir autant de communautés chrétiennes qu'il y a de chrétiens. Alors, c'est quoi la différence entre la communauté paroissiale et la communauté chrétienne dont vous avez parlé ?
Alors, c'est pas exactement autant de communautés qu'il y a de chrétiens, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus les communautés, c'est les individus. Mais que le nombre des communautés qui constituent la paroisse dépend du nombre de chrétiens, partout où il y a au minimum trois fidèles qui sont capables de se rassembler pour prier le Seigneur, pour, eh bien, il y a une communauté locale. Mais la paroisse, c'est un territoire plus large qui est constitué d'une communion de ces communautés, c'est-à-dire que au plus près, et pour permettre et favoriser cette proximité, le fait de pouvoir rendre le Seigneur présent en un lieu, à travers les chrétiens qui, parce qu'ils sont là et parce qu'ils sont rassemblés en ce lieu, il en faut au moins deux ou trois, et puis s'il y en a un peu plus, tant mieux, le Christ est réellement présent en ce lieu. Et étant présent en ce lieu, il va visiter les malades, il va faire du caté aux petits, etc., en ce lieu. Mais cette petite communauté, elle n'a pas toutes les ressources ou tous les moyens pour être une paroisse. Et notamment, elle n'a pas les ressources et les moyens de bénéficier du ministère d'un prêtre en ce lieu tout le temps. Pour ça, il faut élargir le périmètre et le territoire. Et à l'échelle d'un territoire qu'on appelle une paroisse, eh bien, il y a l'Église présente dans sa totalité, ou presque. C'est-à-dire le prêtre, en tant qu'il est le représentant de l'évêque, envoyé par l'évêque, et puis les services de la paroisse, la possibilité de vivre les sacrements, de célébrer l'Eucharistie, au minimum le dimanche, mais aussi plus souvent. Et pour ça, c'est ça qui le minimum pour la paroisse. Il faut avoir la possibilité de vivre une communauté plus large qui peut célébrer l'Eucharistie et donc qui bénéficie des services d'un prêtre. La petite communauté locale n'aura pas ces ressources-là, donc elle ne peut pas être érigée en paroisse. Par contre, la paroisse dans sa globalité est constituée de la communion de toutes ces personnes qui font exister des petites communautés au plan local. Donc c'est ce va-et-vient entre la proximité et la possibilité de se rassembler pour célébrer l'Eucharistie qui constitue la paroisse.
Alors, si je vous suis bien, Monseigneur, ça veut dire que si j'habite dans un village dont le diocèse, par la voix de l'évêque, a décidé que eh bien, ce village faisait partie de tel territoire paroissial, de telle paroisse, eh bien, je dois aller à la messe le dimanche dans cette paroisse, je dois m'engager dans cette paroisse. Ça n'est pas juste de dire, eh bien, je ne m'y retrouve pas avec la sensibilité, le style du curé, je n'ai pas mes amis ici, donc j'habite sur le territoire de cette paroisse, mais je fréquente ou je m'investis dans une paroisse voisine. Ça, c'est pas juste, ça.
Ben, il faut repartir de ce que je disais à l'instant, en citant saint Paul à propos de l'image qu'il emploie du corps pour désigner l'Église. Une communauté, un corps qui serait constitué, c'est comme les cuisses de poulet dans les cantines, vous savez, où il n'y a que quand on nous sert, il y a marqué poulet au menu, et puis tout le monde a une cuisse de poulet dans l'assiette. Mais ça fait un poulet un peu bizarre quand même. Bon. Nos communautés paroissiales ne sont pas constituées que de gens qui sont la main, ou que de gens qui sont l'œil, ou que de gens qui sont le cerveau. Il y a des paroisses comme ça en ville, notamment dans les grandes villes, j'ai connu ça à Toulouse, j'ai connu ça à Paris, qui sont des paroisses un peu d'élection, c'est l'expression qu'on emploie, où les gens se rassemblent parce que le style, ce que vous venez de dire, la prédication de ce prêtre leur convient, etc. Mais c'est des gens qui se ressemblent comme des clones. Et ils ne reflètent pas la globalité de la réalité de ce qu'est l'Église dans sa totalité, dans sa globalité. Dans nos secteurs, dans notre monde plus rural, on a la chance de pouvoir donner visibilité à l'Église de manière beaucoup plus complète, telle qu'elle est. Comme je le disais, avec des gens riches, des gens pauvres, des gens vieux, des gens jeunes, des gens intelligents, des gens pas intelligents, des gens qui votent à gauche, des gens qui votent à droite, des gens qui aimeraient qu'il y ait du latin tout le temps et qui, malheureusement, souffrent parce qu'il n'y en a qu'une fois de temps en temps, et des gens à qui, dès qu'il y en a, ça donne des boutons. Bon, ben voilà, tous ces gens-là sont appelés par le même Christ à se rassembler à un même lieu et à constituer un même corps et à rendre le Christ visible et agissant. Et dans la manière dont nos paroisses sont constituées chez nous, ou pour choisir en fonction d'un style, etc., il faut prendre la voiture et faire beaucoup de kilomètres, mais tout le monde n'en a pas les moyens, et tant mieux, parce que ça donne une paroisse qui reflète la réalité de ce qu'est l'Église, où tout le monde a sa place, et où tout le monde est appelé à se regarder, non pas un chien de faïence, et en partant de soi, en disant « celui-là, je le valide parce que je l'aime bien, et celui-là, je le valide pas parce que je l'aime pas », ça, c'est pas l'Église que le Christ a voulu fonder. Il veut un corps de gens qui se reconnaissent frères et sœurs, non pas à partir de leurs sentiments, mais à partir de l'élection de Dieu lui-même. Et c'est vraiment une question spirituelle extrêmement sérieuse et extrêmement profonde.
Alors pardon, mais il y a aussi la question des jeunes, du coup, puisque ce que vous nous dites là, c'est audible, c'est possible, peut-être pour certaines générations, mais au fond, les jeunes, ils ne sont pas tellement attachés à cette réalité paroissiale, et nombre de parents sont confrontés aussi à cette question des jeunes qui veulent se retrouver à telle messe parce qu'il y a leurs copains et qu'ils préféreraient ne pas aller à la messe si ce n'est pas là où se trouvent leurs amis. Alors, est-ce qu'on peut faire une concession pour que les ados restent à la messe, pour faire court?
Oui. Et il y a à user de beaucoup de pédagogie. Et c'est vrai aussi pour des adultes. Hein. Bon, et on pense à ces nouveaux croyants que sont les catéchumènes devenus néophytes. Il faut consentir à ce que pendant un certain temps, et peut-être de temps en temps aussi, on a le droit de se faire plaisir en allant dans un lieu un peu choisi. C'est bien ce qu'on fait quand on va en pèlerinage quelque part, ou de temps en temps on fait une retraite, etc. Parce que, parce qu'on a besoin de ça humainement. Bon, voilà. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Et donc, bien sûr, quand j'étais curé, je disais aux parents qui me posaient la même question, je disais, mais bien sûr, à l'âge de votre enfant, suivez-le, allez là où il a envie d'aller, parce que sinon vous allez le dégoûter à vie d'aller nulle part, ou d'aller quelque part de toute façon. Donc, il faut user de pédagogie, et donc consentir, mais tout en ne renonçant pas à éduquer. C'est-à-dire que de temps en temps, s'il y a un événement à l'échelle de la paroisse, eh bien de dire à l'enfant, tu vois, d'habitude, on va là où ça te fait plaisir. Mais là, aujourd'hui, on habite une paroisse et aujourd'hui, il y a un événement important sur cette paroisse. Alors aujourd'hui, on va aller quand même là, même si ça te fait moins plaisir aujourd'hui. Et d'éduquer à ça aussi.
Voilà. C'est une question de foi.
C'est une question de foi et surtout d'habituer à ne pas partir de soi et de ce que l'on aime soi et seulement d'en faire de ce sentiment le seul critère d'ecclésialité, parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai, ça ne correspond pas à ce que l'Église dit à propos de l'Église.
Merci, Monseigneur, pour vos réponses sur ce sujet. Alors, il nous reste quelques minutes pour parler d'un autre sujet important, mais on pourra poursuivre la semaine prochaine, puisqu'on a la chance de vous avoir à notre micro chaque vendredi. Il s'agit des profanations, ou pas d'ailleurs, qui peuvent être faites sur des édifices religieux ou sur des croix. On en recense un certain nombre en France. Il y a eu des tags le 11 novembre, ce mardi 11 novembre, sur la porte de l'église paroissiale de Lourdes. Cela a ému la communauté paroissiale. Et puis, la presse s'en est fait écho. Comment faut réagir par rapport à ces actes-là, qui sont des actes de vandalisme ou des actes de profanation? D'abord, peut-être que c'est bien de pouvoir bien les définir. À partir de quand on parle de profanation, en fait?
Si on peut, avec une absolue certitude, identifier une intention réelle de profanation, c'est-à-dire d'atteinte à la dimension sacrée du lieu ou des personnes ou même de Dieu. La plupart du temps, alors l'émotion, elle est tout à fait légitime, hein, évidemment, ça ne fait pas plaisir quand on retrouve des tags sur la porte de son église ou sur une tombe dans un cimetière ou que sais-je. C'est une offense profonde, c'est une agression, c'est... Bon. Mais quelle est l'intention profonde de l'auteur de ça? Souvent, alors même que Jésus meurt sur la croix, il demande à Dieu, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Or, on peut prêter aux agresseurs du Christ une intention réelle de le faire mourir. Mais ils ne mesurent pas toute la portée du geste qu'ils sont en train de poser. Ils savent qu'ils font mourir le Christ, évidemment. Ils sont responsables de leur acte. Et pourtant, le Christ prie pour eux en demandant à son Père de leur pardonner cet acte parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, il faut être très, très mesuré dans la manière d'apprécier ces gestes, qui sont des gestes d'agression, à l'encontre de l'Église, à l'encontre de personnes qui sont les croyants. Et c'est normal que ceux-ci se sentent agressés. Mais il faut comment dire, mesurer les choses la plupart du temps, c'est quand même des gestes qui sont de la bêtise pure et simple, parce que c'est la mode, parce qu'on en a entendu parler, et le fait d'en parler peut donner l'idée à d'autres de faire pareil. Bon,
mais c'est... Alors, pardon, juste une précision, s'agissant de ce qui s'est passé sur les portes de l'église paroissiale de Lourdes, ce sont des tags insultant le Christ faits au blanco, au typex, quoi.
Oui. Ça dit bien que, bon, alors évidemment, hein, les autorités à qui on signale immédiatement ces choses-là, les recensent, ça alimente les statistiques qui peuvent permettre de repérer que les actes anti-chrétiens, anti-musulmans, anti-juifs ont augmenté cette année par rapport à l'année précédente, etc., etc. Donc c'est très utile pour les responsables de notre société dans sa globalité. Donc c'est le préfet qui m'a informé de cette agression en me disant que le ministère de l'Intérieur avait été informé aussitôt, etc., etc. Donc la police est informée, elle fait son travail d'enquête et avec sérieux. La mairie est informée et elle fait son travail de protection autant qu'elle le peut avec les moyens qui sont les siens, avec sérieux, etc. Mais il faut sans doute éviter de faire de la surenchère en y voyant instantanément plus que ce qu'il y a réellement. Et donc, dans le doute, il faut toujours privilégier l'interprétation la moins violente. Et pas répondre à de la violence par un surcroît de violence de notre part. Ce n'est pas ce que le Christ a fait. Même si on estime qu'elle est légitime, quand Pierre dégaine son épée dans le jardin des Oliviers, Jésus lui demande de la remettre dans son fourreau parce que c'est pas comme ça qu'un disciple du Christ et que lui doit réagir face à une agression. Et il faut réagir avec les armes de la foi, les armes du Christ, et donc la prière. Et le Christ nous donne l'exemple. D'abord la prière pour ceux qui ont posé un acte qui nous offense légitimement. Et puis, plus globalement, essayer aussi de considérer toute notre société et voir ce qui pousse des gens, des jeunes probablement, à poser des actes comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ciblent les chrétiens, etc., etc., et de travailler sur le fond des choses. Et ce n'est pas l'emballement ni médiatique ni entre nous, quand on en parle, qui peut aider à faire ce travail-là d'analyse, de réflexion de fond et d'accompagnement des gens pour que ben, ils aient leur violence et leur agressivité ne se dirigent pas vers des croyants qui n'en demandent pas tant.
Donc dans ce cas précis et dans tous les autres, on ne peut pas parler de profanation si les auteurs n'ont pas exprimé clairement leur intention de profaner. C'est ça que vous nous dites, Mgr Mika ?
Oui, la profanation, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave. Et il y a des réponses proportionnées à ce qu'est un véritable acte de profanation. Et à ce moment-là, on peut célébrer une messe qui demande à Dieu de réparer ce qui a été profané. Mais bon, il faut vraiment... Il y a toute une gradation. Crier instantanément à la profanation, il faut quand même... raison gardée.
Merci beaucoup, Monseigneur. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien.
Merci beaucoup et vraiment bonne semaine à tous nos auditeurs.